Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International, dans cette émission qui fait le tour de la planète football et aujourd'hui particulièrement celle de la Ligue des Champions, avec cette drôle de première journée, des surprises, la défaillance d'entrée de grands comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, et un champion sortant, le Bayern Munich, lui, en très grande forme. Quel bilan tiré de ce début de marathon européen en période de pandémie ? Une Ligue européenne fermée sous la houlette de la FIFA. Un nouveau projet serait en préparation à l'initiative des grands clubs. Une Ligue fermée, est-ce inéluctable dans le football business d'aujourd'hui ? Virgil van Dijk à l'infirmerie et pour un long moment. La blessure du défenseur de Liverpool face à Everton est grave. Sa saison est-elle déjà terminée ? Et surtout, est-ce grave aussi pour les Reds ? Les droits télé du football français, où en est-on de la Ligue de football et de Média Pro ? Le groupe sino-espagnol assure vouloir continuer à retransmettre le championnat de France, mais sans convaincre et sans payer. Le contrat doit-il être renégocié ? Autour de moi pour répondre ou tenter de répondre à ces questions, trois personnes. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Comment allez-vous ?
Toujours bien.
Toujours bien ?
De semaine en semaine.
Étienne Moati de l'équipe, toujours bien aussi ?
Oui, très occupé, mais tout va bien.
Bonjour.
Débordé.
Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là dans Radio Foot International. Aujourd'hui, Radio Foot préparé avec l'aide de David Finzel, Laurent Salerno à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Le naufrage du Real Madrid va-t-il se poursuivre jusqu'au bout ?
Solomon !
Immobilier, le centre immédiat pour Jean-Daniel Akpa Akpo !
Deux buts à un pour Manchester United et ça n'est pas un hold-up.
Victoire de la Lazio sur le Borussia Dortmund, 3 buts à 1.
Ils sont en train de détruire, de marcher sur le Real Madrid.
Et oui, d'entrée de jeu, de grands noms au tapis, le Real Madrid, le PSG, aussi le Borussia Dortmund ou l'Atlético Madrid battus dès le premier match. Et une statistique leur prédit le pire à ces clubs. Jamais, en effet, une équipe ayant perdu son premier match en Ligue des Champions n'a remporté le trophée. Quelles sont les raisons de ces défaites ? Faut-il les imputer à la saison qui s'engage dans un contexte sanitaire qui modifie tout finalement ? Étienne Moati ?
Je ne suis pas persuadé que ce soit la raison essentielle. Il y a des raisons différentes suivant les clubs, suivant les cas. On a vu le Paris Saint-Germain, c'est plus un problème d'attitude que de conditions physiques. C'était absolument dramatique et scandaleux l'attitude qu'ont mis les joueurs parisiens dans ce match-là. On n'avait pas le sentiment qu'ils jouaient un match de Ligue des Champions. Pour le Real Madrid, on avait fait tourner. C'était une équipe bis et sûrement assez peu motivée, qui n'a pas pris cet adversaire au sérieux. Il faut dire que cette équipe-là, c'était l'équipe B du Shakhtar Donetsk. Donc forcément, quand vous êtes le Real Madrid, vous ne prenez pas forcément cet adversaire-là au sérieux. Ça s'est mal enchaîné pour eux. Je pense qu'il y a des raisons différentes à chaque fois.
Jean-Philippe Bouchard, pour vous, ces surprises d'entrée, est-ce que c'était prévisible, disons ? On en parlait dans Radio Foot au long de la semaine en se disant cette saison est quand même étrange et ça peut se répercuter aussi sur la Ligue des Champions.
C'est sûr que les conditions sont particulières, les stades à huis clos, le calendrier, une reprise plus tardive, bon bref. Mais ça, c'est la même chose pour tout le monde. Les clubs sont confrontés à la même difficulté. Ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui gèrent beaucoup mieux cette difficulté, qui arrivent à ne pas se déconcentrer que d'autres. Tuchel, l'entraîneur du PSG, expliquait que avant le match et puis à la mi-temps, il sentait pas l'ambiance des grands soirs, la musique était pas très forte. D'autres entraîneurs de Ligue 1 disent ça aussi, qu'il y a l'ambiance dans les stades, il y a moins de tension pour les joueurs. Mais ça se gère aussi, c'est des pros, c'est leur boulot. Et manifestement, ça a pas gêné le Bayern, par exemple, ces conditions-là. Donc voilà, on peut dire que c'est pas, enfin, tout le monde réagit pas de la même façon, à des conditions qui, certes, sont différentes.
Philippe, comment vous lisez-vous ces résultats, ces surprises et surtout ces mauvais, ces faux pas pour certains grands d'entrée ?
Non, il y a quand même une réalité, c'est que le Final 8 a décalé complètement le calendrier de tous les grands clubs par rapport aux autres. Ça, c'est une réalité qu'on retrouve quand même très rarement, peut-être un petit peu dans les après-Euro, après-Coupe du Monde, où les meilleurs joueurs se retrouvent quand même globalement à peu près à la fin, et eux aussi ont une préparation tronquée. Donc on se retrouve un peu dans cette configuration-là, avec une difficulté à démarrer, qui est généralisé parce que le Real et le Barça ont perdu en championnat. Le Bayern a déjà perdu un match, mais pour le reste, c'est vrai que le Bayern fait un peu l'exception.
Ils ont des stats.
Ils sont fait exploser à Fenheim quand même. Ils sont passés à travers un match quand même.
Ils sont à 3,7 buts par match, je pense. Donc c'est quand même ça tourne.
Ça continue à tourner. Mais
tu considères que pour le Paris Saint-Germain, par exemple, c'est évidemment donc leur finale de Final 8 qui explique que ni Neymar ni Mbappé n'ont fait trois pas dans le match, que le milieu de terrain était totalement déséquilibré. Voilà.
Non, mais pour moi, ils n'ont pas commencé la saison tout court. Hein. C'est pas parce qu'ils ont gagné 4-0 à Nîmes qu'ils ont été extraordinaires. Ils n'ont pas commencé la saison. Ils ont fait une préparation tronquée, dont une partie à Ibiza. Ils ont fait des choix. Il est vrai aussi que la Ligue 1 démarrait plus tôt, mais pour des raisons un peu objectives, c'est qu'on avait arrêté en mars. Donc, en gros, il y a un certain nombre de clubs qui n'ont pas fait une vraie préparation. C'est une évidence, et je suis pas étonné que ce soit le Bayern qui s'en sorte le mieux, parce que eux ont pu faire arrêter le championnat suffisamment tôt en juin, faire une préparation pour la Ligue des Champions, et sans doute une demi-préparation pour le championnat, mais c'est déjà mieux que ceux qui ont fini fin juillet et qui redémarrent, comme le Barça, le Real, qui sont pas du tout dans le coup.
Zinedine Zidane, dans les explications qu'il essayait de trouver hier en conférence de presse, tout comme Kevin De Bruyne, il y a quelques jours, quand lui, il avait joué en Angleterre avec l'équipe de Belgique, avait évoqué ce calendrier trop chargé en ce moment. Parce qu'en plus de la Ligue des Champions et des championnats, il y a en plus les journées internationales, et tout ça pratiquement avec les mêmes clubs et avec les mêmes joueurs.
L'UEFA, pompier pyromane, c'est-à-dire que pendant le Covid, des tas de choses ont été dites, il faut absolument revoir tout ça, il y a beaucoup trop de matchs, beaucoup trop de compétitions, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'UEFA n'a pas coupé une seule date FIFA, c'est le seul continent qui le fait, a mis 8 matchs de sélection pendant la période de l'automne, et surtout pas enlever un match de Ligue des Champions, alors qu'ils auraient très bien pu changer la formule et alléger peut-être le premier tour ou le décaler. Pas du tout, on n'a rien enlevé, et on a même ajouté. Extraordinaire, merveilleux.
Etienne,
des championnats qui commencent un mois plus tard, génial, idée de génie.
C'est vrai que ce calendrier, quand on voit qu'on est parti pour des matchs de Ligue des Champions toutes les semaines, avec en plus pour certaines équipes, alors par exemple en Espagne ça sera le Classico, on avait eu le PSG Marseille, on a des échéances aussi en championnat qui comptent, est-ce que c'est pas trop demandé aux joueurs finalement, aux machines que sont devenus les corps des joueurs?
Oui, c'est beaucoup demandé. Maintenant, Philippe dit l'UEFA, mais donc l'UEFA, ce sont d'abord les fédérations nationales. Si vous interrogez les fédérations nationales, est-ce qu'elles veulent avoir des matchs de sélection? Elles vous répondront oui, parce qu'elles en ont aussi besoin. Et ça irrigue aussi tout le football amateur. Par exemple, la Fédération française de football, elle reçoit 3,5 millions d'euros par match des télévisions. Cet argent-là sert donc à irriguer tout le football amateur, à servir dans les ligues, dans les districts, dans les championnats du dimanche matin. Donc on peut pas non plus faire une croix sur tous ces moyens-là, qui sont des moyens qui ne vont pas simplement donc dans la poche des grands joueurs et dans leur salaire.
C'est un peu la course aux armements, c'est-à-dire que globalement le foot mondial est quand même économiquement en danger, parce qu'effectivement il y a eu la crise du Covid qui fait que les recettes billetterie déjà sont amputées, qui ont plombé tout le trading joueur, c'est-à-dire que les transferts ont été beaucoup moins fructueux qu'ils le sont d'habitude, donc déjà il y a des recettes en moins, et en plus il y a menace sur les télés, il n'y a pas qu'en France, et donc en fait si on supprime des matchs en plus, ça sera des recettes en moins, et là je pense que tout, à la fois les fédérations qui vivent de leur équipe nationale et les clubs commencent à pétocher vraiment, et c'est pour ça que personne ne veut supprimer de match. Tout le monde est d'accord en fait pour ce calendrier infernal, et sauf qu'à l'arrivée ça va nous faire un euro en 2021 s'il a lieu, qui sera même plus l'euro de la fatigue.
On verra quels soldats seront encore valides pour faire
changements par
l'euro,
équipe, et je sais pas dans quel état ils arriveront la Coupe du Monde l'année suivante, quoi. Mais ça va, c'est vrai qu'on est dans une sorte de calendrier infernal, et que forcément la qualité du jeu va se dégrader, et puis la santé des joueurs sera menacée aussi. Hein.
Alors dans ces résultats surprenants, lequel vous a, disons, surpris le plus, Philippe, entre...
Le Real, quand même.
Ah oui, le Real.
Le Real, c'est très étonnant. C'est quelque chose qui est... une défaite de ce genre-là, ils n'ont jamais connu.
Surtout qu'ils étaient à 3-0 quand même, menés 3-0
à la mi-temps.
À la mi-temps chez eux.
Effectivement, c'est un. Alors chez eux, effectivement,
ouais,
c'est ni Bernabéu, il n'y a pas de spectateurs. Bon, c'est un peu particulier, mais enfin, ça les a pas empêchés de faire le plein en championnat d'Espagne et en tout cas sur la fin de saison et d'être imparable dans ce stade. Donc oui, c'est très très étonnant. Moi, j'ai regardé le match du Real. J'ai regardé un bon bout du match du Real. C'était très bizarre.
Parce qu'il y avait pas Ramos.
Oui, non, bien sûr, il y avait quelques absents,
mais
globalement, Zinedine Zidane est un peu mis en avant en disant il a fait des choix secondaires. C'est pas tellement vrai, sauf devant. Il n'y a que devant où il a fait des choix, mais au milieu et derrière, il a mis les joueurs qui sont valides. Et ils ont fait une première période de niveau Ligue 2, quoi. Faut dire les choses, Ligue 2.
Mais le match du Real, ça illustre exactement le sujet d'avant, c'est-à-dire le calendrier, parce que on dit il y a beaucoup trop de matchs, et donc les joueurs sont mis sous pression, ils vont arriver usés, rincés en fin de saison. Mmh. Et quand vous avez un entraîneur qui fait un petit peu tourner sur un match où c'était possible de le faire, quand vous rencontrez l'équipe B du Shakhtar Donetsk, normalement, vous pouvez quand même, quand vous avez une équipe avec 25 internationaux ou quasiment, faire un petit peu tourner. C'est ce qu'a fait Zinedine Zidane. Ça s'est mal passé. Il a été donc étrié par la presse en Espagne. Donc c'est compliqué. Donc c'est un cercle infernal, parce que quand vous le faites, si ça se passe pas bien, on vous dit mais pourquoi vous mettez pas votre équipe type ? Et donc on n'y arrivera jamais.
Mm-hmm. Oui, alors Jean-Philippe. Après, il y a quand même un problème d'attitude, et c'est vrai aussi pour le PSG qui s'est trouvé de la même façon hein, quand même.
Une équipe A.
Ouais. Pratiquement, il n'y avait pas Marquinhos qui est quand même le métronome de l'équipe, mais c'est un peu les mêmes raisons. Je pense que c'est vraiment, comme disait Philippe, ils ne sont pas entrés dans leur compétition encore, et ils vont être obligés de le faire très vite, parce que sinon ça va être des sanctions difficiles, parce que pour le PSG c'est la semaine prochaine ça joue, il faut qu'il marque 3 buts en Turquie, parce que sinon il va être décroché, quoi. Donc,
et le Real pareil,
pareil pour le Real. Donc là pour la première fois depuis longtemps, ces équipes-là vont devoir être dès l'automne à fond, comme ils le sont d'habitude au printemps.
Mmh, ouais. Pour ce qui est des défaites de Dortmund ou de l'Atlético Madrid, alors l'Atlético Madrid, on en parlera avec le Bayern, mais par exemple Dortmund, c'est pareil, ils ont un peu mal commencé. C'est dans le même contexte bizarre. Ah,
après, ils ne rencontrent pas des peintres en bâtiment non plus.
Parmi les grosses affiches, effectivement.
Voilà, c'est quand même des effectifs et des niveaux qui sont à peu près équivalents. Donc, sur un match, la Lazio peut évidemment battre Dortmund, et heureusement d'ailleurs.
Mm-hmm. Ouais, ça nous permet d'évoluer. Alors, on évoquait le Bayern, évidemment. Le Bayern qui nous avait impressionné sur la phase finale à Lisbonne. Eh bien, ils étaient encore impressionnants hier.
Coman peut-être pour un doublé à grandes enjambées avec le retour justement du Brésilien Felipe. Coman qui est en train d'enrhumer Felipe qui va passer tout le monde en retrait. Oh, vu, c'est pas possible.
Ça, c'est super.
Quelle soirée, quelle année, calendaire pour Kingsley Coman, auteur du 500e but contre le Paris Saint-Germain pour le Bayern en Ligue des Champions. Et là, il a endormi totalement le Brésilien Felipe à gauche, à droite.
Notre confrère de RMC, passionné par ce match et par ce champion flamboyant, le Bayern, Jean-Philippe, c'est vrai que bon là c'était contre, la victime expiatoire c'était l'Atlético Madrid, hein, 4-0 assez sévère. Là c'est, Philippe il faisait allusion, c'est le contre-exemple parfait, ils sont sur une dynamique mais ils ont eu une organisation totalement différente et aussi une pandémie différente en Allemagne.
D'abord, ils ont été moins frappés, ça c'est sûr. Voilà. Ils ont pris dès le début des mesures qui leur ont permis d'abord de reprendre leur championnat et de le terminer, ce qui a contribué quand même.
Et des mois de mai, quand personne ne jouait encore ailleurs. Ils ont servi de test, d'ailleurs.
Ouais, je pense qu'il leur a permis quand même d'avoir un équilibre dans la gestion des effectifs bien meilleur qu'en France, en tout cas. Et puis après, il y a cette culture de la gagne aussi au Bayern qui est quand même impressionnante. Quoi. Je repensais à ça là. Aujourd'hui, le président du Bayern, Rummenigge, il est en poste depuis... Enfin, il était vice-président à l'époque, mais c'était lui qui était aux manettes depuis 91. Et à ce moment-là, quand ils reviennent avec Uli Hoeneß, qui sont des anciens joueurs, avec Beckenbauer et Uli Hoeneß, qui décident de reprendre leur club, de relancer leur club, ils décident la victoire perpétuelle. Et voilà, c'est leur objectif. Ouais. C'est pas de gagner la Ligue des Champions, voilà, c'est la victoire perpétuelle. Et ils ont ce principe en permanence. C'est-à-dire que chaque match, il faut le gagner. Et c'est le propre des très grands clubs. Et là-dessus, parce que là, pour le coup, l'Atlético, c'est un, gros effectif. Ça peut être une finale de Ligue des Champions, ce match, quand même.
En 74, c'est le même résultat, d'ailleurs.
D'accord. Voilà. Et donc, c'est ça qui est impressionnant. C'est la pérennité de ce club et sa capacité à se maintenir au niveau. Et en se renouvelant à chaque fois, sans faire de folie, en plus, sur le marché des transferts. Non. Il y avait 4 Français sur la pelouse hier. Je peux vous dire que
il y en a 2 qui ont marqué.
Voilà. Que ces Français-là, ils sont suivis par les scouts du Bayern depuis qu'ils ont 14 ans. C'est en aucun cas.
Hernandez, il a été suivi à 80 millions d'euros quand même.
Ouais, c'est probablement une des rares folies du Bayern et sans doute il s'envole de la
RPG. Pavard aussi, donc, était suivi avec une trentaine de millions d'euros pour le faire venir. C'est pas des jeunes joueurs qui étaient pistés dans les centres de formation. Oui, non, mais parce qu'on a l'impression qu'il fallait des scouts pour les découvrir. C'était quand même des joueurs qui étaient en équipe de France.
Non, ce qui regarde, c'est pas la valeur du joueur, c'est pas eux qui la décident. Ce qui regarde, c'est sa capacité à s'intégrer au mode de vie allemand, à s'intégrer au club. Enfin, ils ont tout un tas de critères.
Facteur d'adaptation. Ouais,
et ça, c'est ça aussi les clés de la réussite et de la pérennité.
Pour moi, les clés de la réussite du Bayern, c'est simplement que vous jouez au football au Bayern et que quand vous faites tourner votre effectif, vous restez exactement dans le même système de jeu, avec la même philosophie, avec des choses qui ont été répétées à l'entraînement. Donc finalement, ça n'est pas si compliqué que ça. Les joueurs rentrent et s'adaptent assez facilement. Quand vous voyez jouer le Paris Saint-Germain, au bout de combien de saisons de Thomas Tuchel, mais je ne sais pas vous dire comment joue le Paris Saint-Germain. Ça reste un mystère. Il n'y a pas de système de jeu. Le football, heureusement, c'est des investissements, c'est des moyens, mais c'est quand même aussi d'abord des organisations, des systèmes de jeu et des entraîneurs qui réussissent ou pas.
Et c'est ce qu'on se demande effectivement dans Radio Foot ces temps-ci. Philippe Doucet, nous ce qui nous a intéressé aussi c'est Liverpool, bon, qui a gagné un peu à la peine son 1-0, mais surtout on a vu Jürgen Klopp à un moment un peu furieux. Alors c'est vrai qu'on a droit à 5 changements maintenant dans le contexte actuel par match. Il a sorti tout d'un coup ces 3 joueurs, Mané, Firmino et Salah, pas assez contents de leur rendement ou pour les préserver.
Moi, je pense pour les préserver. D'abord, Liverpool s'est équipé aussi. Il travaille à la manière du Bayern. C'est un joli boulot où petit à petit, chaque année, l'équipe est un peu supérieure, un peu plus construite, un peu plus complète. Maintenant, ils ont des attaquants remplaçants de qualité. Donc, Klopp, il est obligé de
le faire tourner.
Il est à la fois obligé de le faire tourner parce qu'il faut valoriser ses joueurs et les mettre dans l'état d'esprit. Mais en plus, il faut effectivement reposer Mané. On va jouer six matchs de suite, là, jusqu'à la trêve internationale. Il y a juste 6 matchs. Ensuite, il y a 3 matchs de sélection et vous rejouez un cycle de 6 matchs derrière. C'est complètement infernal.
En plus,
c'est ahurissant comme calendrier.
En sélection, en plus.
Et tous jouent en sélection, évidemment.
Bah oui, dans
Liverpool
clubs,
comme au Bayern, il n'y a pas de doute.
En général, Liverpool, c'est plutôt l'inverse. Ils font très peu tourner. Ces joueurs-là, ce trio d'attaque, jouent quasiment tous les matchs. On est souvent surpris de les voir répéter tous ces efforts en jouant tous les matchs, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue des Champions, qui sortent un petit peu, c'est un minimum.
Avant, il n'y avait que Origi pour remplacer, comme remplaçant offensif. Maintenant, il y a Giotto, il y a... comment s'appelle-t-il vous m'aidez pas, là.
Ben
Shaqiri est arrivé aussi. Il y a Minamino. Enfin, bon, voilà, il y a du monde, maintenant.
Ils en ont rajouté. On reviendra tout à l'heure sur l'absence de Van Dijk. Une question autour de cette Ligue des Champions qui est donc lancée. Tout d'un coup apparaît cette nouvelle qu'une nouvelle Ligue européenne portée à bout de bras par, non pas l'UEFA, mais par la FIFA pourrait surgir et donc rentrer en concurrence finalement avec la Ligue des Champions. On se souvient qu'au printemps dernier, l'UEFA avait essayé de présenter ou en tout cas d'étudier une formule qui retombait un peu sur une ligue fermée. On a eu aussi récemment ce projet en Angleterre baptisé Big Picture qui aurait été là aussi un genre de ligue de championnat. Toujours les mêmes équipes, ça veut dire ligue fermée, je le dis à nos auditeurs. Et là, c'était imaginé par Liverpool et Manchester et surtout Manchester United, leur propriétaire américain. Et là, la chaîne anglaise Sky Sport assure qu'avant la fin du mois serait annoncé un championnat européen, donc concernant seulement 18 clubs, 18 grands clubs. Il y aurait une dotation énorme de 5 milliards d'euros et ça serait orchestré par la FIFA. Est-ce que c'est crédible selon vous? Parce qu'on entend tout, que ça serait possible, que c'est une rumeur, que c'est un contre-feu, que c'est pour embêter l'UEFA. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça, Étienne Moati?
C'est totalement bidon. C'est totalement bidon, je ne crois
absolument
pas.
C'est pas du tout un scoop de nos confrères.
Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est totalement bidon. Je ne crois pas une seule seconde à cette histoire. J'ai essayé de travailler un peu dessus. Il m'a suffi de passer deux coups de fil pour me rendre compte que c'était complètement bidon. Mais je m'en doutais fortement. Ils annoncent donc une compétition, une ligue fermée avec ces clubs-là qui sont déjà engagés dans des compétitions européennes, avec un démarrage qui aurait lieu en 2022. Quand vous savez que les contrats qui ont été signés par l'UEFA sur la Ligue des Champions avec toutes les télés européennes et mondiales courent jusqu'en 2024. Donc je vois pas comment les télés pourraient donc se sortir de leur contrat pour aller sur une autre compétition organisée par je ne sais qui, avec je ne sais quel moyen. Moi, ça fait 30 ans que j'ai démarré dans ce métier, ça fait un peu longtemps, mais un peu comme Philippe, ça fait 30 ans que j'entends parler de ce dossier-là, sous toutes ses formes, qui n'a jamais abouti à rien du tout. Donc je ne crois pas à la Ligue fermée, je n'y ai jamais cru, je n'y crois toujours pas.
Le seul point où c'est troublant, c'est l'origine FIFA. Parce que d'habitude, c'est toujours des origines des clubs. Quand il y avait le G14, qui était le G18 et tout ça, à chaque fois, c'était les gros clubs européens qui se mettaient d'accord un peu, en gros, pour augmenter leur part des droits, faire augmenter leurs revenus, qui faisaient pression sur l'UEFA, et voilà, et tout le monde se mettait d'accord, l'UEFA rallongeait la sauce. Et voilà. Là, il y a ce truc qui est très bizarre, c'est l'origine FIFA. Là. Enfin, ça
a été totalement démenti par la FIFA, mais ça n'a aucun sens.
Infantino a démenti d'ailleurs, en disant que si championnat des clubs il devait y avoir, ça serait un championnat du monde. Oui, effectivement, c'est plus dans la vocation de la FIFA. La FIFA, donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas de réalité là-dessus.
Mais Philippe, malgré tout, quand on voit ressortir sans cesse des histoires de ligues fermées, est-ce que vous n'y croyez pas du tout comme Étienne Moati, ou alors c'est juste un fantasme comme ça qui existe pour les grands clubs et ça ne marcherait pas?
Non, moi je...
On a vu la réaction furieuse de Figo, l'ancien international portugais, qui dit, mais c'est parce que évidemment, ça porterait préjudice à tous les championnats nationaux.
Ah ben la première victime serait les championnats nationaux.
Oui.
Là aujourd'hui on parle de concurrence pour la Ligue des Champions. Je crois qu'il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme une concurrence immédiate pour les championnats nationaux, parce que tout d'un coup le PSG ou autres vont dire bon attendez contre Dijon.
Déjà, je
vais mettre une demi-équipe. Ça ira très bien, non? Ça vous va? Je mets une demi-équipe parce que dans deux jours j'ai un autre match, vous comprenez? Ouais. Ou demain ou la veille ou etc. Donc voilà, c'est effectivement une véritable menace sur la structure même du football d'aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant, parce que aujourd'hui ce qui finance le football dans le monde, ça reste quand même les championnats nationaux à la base. La Ligue des Champions a de gros droits, par exemple de gros droits télé, c'est 2,5 milliards, c'est pas rien, mais c'est moins que la Première Ligue, par exemple, que la seule Première Ligue. Donc avant de se dire on va complètement changer de structure, on va quitter les championnats nationaux, nous les grands clubs, et on va aller disputer un tournoi, il va falloir qu'ils soient quand même très très sûrs des ressources. Cela dit, je suis moins optimiste que Étienne. Moi, je crains qu'à terme, ça finisse par exister, parce qu'on voit bien que d'abord, les propriétaires des clubs ont beaucoup changé. On citait le Bayern tout à l'heure, mais il y a les contre-exemples. Les contre-exemples, c'est tous les Américains évidemment, pour eux, ce genre de schéma tombe sous le sens. Je veux dire, pourquoi s'embêter à jouer West Bromwich Albion quand on est Liverpool? On va aller jouer Hambourg, Dortmund,
la Ligue fermée dont on parle depuis 30 ans, en fait, elle existe déjà aujourd'hui. Ça s'appelle la Ligue des Champions.
Bien sûr.
La Ligue des Champions, vous avez quatre Allemands.
C'est pas assez de matchs pour les gros.
Vous avez quatre Allemands, quatre Italiens, quatre Anglais, quatre Espagnols qui sont toujours directement qualifiés. Donc les plus grands clubs européens, ils n'échappent pas une seule fois à la Ligue des Champions. Donc même les Français, les grands clubs comme le Paris Saint-Germain, tous les ans ils sont en Ligue des Champions. Moi, je veux bien qu'on me raconte que ces clubs-là, évidemment, ils rêveraient donc de ces recettes d'une ligue fermée. Mais les recettes, vous les trouvez où? Vous les trouvez auprès des diffuseurs télévisés. Les diffuseurs télévisés, pour les connaître un tout petit peu, eux, ce qu'ils veulent, et c'est pas parce qu'ils sont philanthropes, et c'est pas parce qu'ils adorent le sport, le football et son histoire, mais c'est ça qu'ils veulent, parce que c'est ça qui a de la valeur commerciale. Si vous créez de toute pièce une compétition totalement artificielle, les gens ne vont pas y croire. Si les gens n'y croient pas, ne s'abonnent pas à des chaînes de télévision pour regarder ces matchs-là. Ça s'appelle des exhibitions, ça peut exister de temps en temps, mais ça fonctionne pas. Ces histoires de ligues fermées, ça sert simplement aux grands clubs à faire pression sur les organisations telles que l'UEFA essayer de récupérer plus d'argent des compétitions comme la Ligue des Champions qui existe déjà.
Et notamment qu'ils agitent régulièrement.
Et notamment dans la période actuelle où beaucoup de grands clubs s'interrogent singulièrement sur leurs finances. Je veux dire, c'est des centaines de millions de pertes pour ces clubs-là, alors qu'ils étaient en expansion, tous les budgets étaient en expansion continue depuis des années.
Les dettes aussi, un peu.
Pas toujours, non, pas forcément. Non. Beaucoup de grands clubs font des bénéfices, contrairement à ce qu'on croit. Ils ont des dettes anciennes, qu'ils remboursent d'ailleurs à peine, parce que, ou vaguement, parce que... parce qu'ils n'ont aucune difficulté de financement. Les grands clubs n'ont aucun problème. Les vrais grands problèmes quand on est en crise, ce sera bien sûr le football amateur, ce sera le football de niveau un peu faible. Et les grands clubs, je ne suis pas inquiet du tout pour eux, parce que justement, ils sont capables de générer plein d'autres ressources, y compris dans des nouvelles compétitions. Et c'est là où ils me font peur. C'est-à-dire que j'ai peur qu'ils déclenchent l'arme atomique qui serait effectivement la Ligue fermée.
Ouais. Avant de revenir à l'histoire des droits télé, on va faire un petit crochet par l'Angleterre et parler d'un grand joueur actuellement à l'infirmerie.
Sixième minute, stupeur et incompréhension pour les Reds.
For Liverpool at the moment with Robertson and indeed Fabinho can re-deliver. Van Dijk is around the back and Pickford threw in a boot. But Van Dijk was offside. I think initially he was hoping. Played Van Dijk. Calvert-Lewin's back foot is playing Van Dijk on him.
Solide comme un roc en défense, le grand Virgil van Dijk a été renversé lors du derby de la Mersey. Une sortie toute jambe en avant du gardien d'Everton qui a donc fauché le joueur des Reds. Il a quitté la pelouse en boitillant avant qu'évidemment un grave verdict ne tombe. Les ligaments du genou sont touchés. Une opération est nécessaire et évidemment après tout ce qui va derrière pour se remettre sur pied. Ses camarades sont encore sous le choc comme Jorginho Wijnaldum.
Nous sommes encore sous le choc, vous savez, la façon dont c'est arrivé, c'est vraiment dur pour nous. Tout le monde est très affecté. Virgil est si important, il l'a montré depuis son arrivée pour l'équipe et pour le club. Il a fait des grands matchs, il est essentiel pour nous, sur le terrain et en dehors. C'est un véritable leader dans l'équipe. Nous avons de très bons résultats depuis son arrivée. C'est normal que les gens disent qu'on est moins fort sans lui. Mais il ne tient qu'à nous de montrer qu'on peut quand même livrer de bons matchs sans lui.
Ça s'est passé en début de match du derby de la ville de Liverpool, Jean-Philippe Bouchard. Ce qui s'est passé, c'est aussi que le gardien n'a pas été puni, que bon, après, on a su la gravité de la faute, mais que sur l'instant, c'était déjà assez spectaculaire.
C'est très spectaculaire. Voilà. En direct, au moment de la faute, il y avait du Schumacher, non?
Exactement, ça rappelait exactement des choses anciennes.
Ça pique fort. Merci, Philippe. C'est fou, c'est qu'il n'y a pas eu d'avertissement, pas de sanction.
Rien.
Peut-il
y avoir une sanction? Apparemment, la Ligue anglaise, pour l'instant, se tient sur une ligne de dire non, mais les réseaux sociaux se déchaînent contre Pickford. Aujourd'hui, Ancelotti l'a défendu. Est-ce que c'est un geste, évidemment, violent, mais... Je veux dire, il a été inconscient, Pickford, ou c'est vraiment...
On n'est pas dans sa tête, mais c'est aussi la fonction du gardien qui veut ça. C'est-à-dire que les gardiens, ils se font casser les doigts, ils se font taper dans le visage. Enfin, ils prennent aussi beaucoup de coups. Et c'est une façon aussi d'en imposer que de faire ce genre de sortie. Maintenant, il n'est pas dans les lois du jeu, là, très clairement. Donc, il doit être sanctionné. Que ça provoque une faute, ça, c'était sans doute pas son intention. Enfin, une blessure grave, c'était peut-être pas son intention, mais de toute façon, il doit être sanctionné par l'arbitre. Sur le moment ou a posteriori avec la vidéo, je sais pas. Franchement, c'est trop spectaculaire, trop violent, et il y a quand même vraiment intention de toucher le joueur. Quoi.
Donc, en France, quand vous avez un joueur qui en blesse un autre à ce point-là et qu'il est sanctionné sur le terrain, et ensuite la commission de discipline prend en compte la nature de la blessure pour évaluer aussi donc la sanction qui est faite à celui qui a commis cet acte-là.
Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'apparemment la seule personne qui serait punie, c'est un des arbitres de la VAR qui est sanctionné pour ne pas avoir identifié le problème
c'est
au bon
bien.
Moment.
Ouais. C'est déjà bien parce que c'est impardonnable de sa part. Totalement impardonnable. Lui a le recul nécessaire. L'arbitre n'a vu qu'une fois la scène. Il a pu ne pas se rendre compte forcément de la gravité de la sortie de Pickford. Il peut très bien ne pas l'avoir bien apprécié. Par contre, celui qui voit les vidéos ne doit pas se tromper. Et en ce sens-là, on voit le problème toutes les semaines et très régulièrement. On a trop peu d'arbitres VAR qui remettent en cause ce que fait l'arbitre. C'est-à-dire qu'on est derrière cette fameuse phrase l'erreur manifeste. Alors l'erreur manifeste, ça permet la plupart du temps à l'arbitre VAR de dire l'arbitre a pas sifflé après tout, on va rien faire. Là, typiquement, c'est une faute majeure. J'espère qu'il sera. C'est déjà ça s'il est sanctionné et que même ça serve d'exemple pour la FIFA et bien autres. Sûr. Où le cahier des charges me paraît toujours aussi mal fait du côté du VAR, et qu'il y ait une réflexion pour se dire, attendez, votre histoire d'erreur manifeste, il y a un moment où ça a des limites. Quand on voit des pénaltys sifflés parfois, il n'y a même pas de faute, mais il y a un vague contact, et sur ce critère-là, il y a vague contact, donc on va laisser à l'arbitre la décision, alors qu'on voit très bien sur la vidéo qu'il ne doit pas y avoir de pénalty. Le VAR ne sert à rien dans sa fonction actuelle, franchement, il ne sert à rien, à part corriger les hors-jeux, c'est tout.
Alors pour l'équipe de Liverpool, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle. Jürgen Klopp s'est mis tout de suite du côté de son joueur en disant « Nous sommes là pour lui, il le sait et nous allons l'attendre comme une femme attend son mari quand il est en prison, en faisant tout pour que ce soit le plus facile possible pour lui. » La saison de Virgil van Dijk, on dit que ça serait 6-7 mois, donc pratiquement terminée, peut-être même pas d'euros, parce que ça doit être difficile de se remettre de ce genre de blessure. Que peut faire Liverpool ? Bah, est-ce qu'ils doivent s'en remettre à leur charnière Joël Matip, Joe Gomez, qui remplacerait dans ce cas-là deux joueurs à la place de Virgil van Dijk pratiquement?
Non, mais il y a aussi Fabinho. Le gros avantage, c'est qu'ils ont étoffé quand même leur milieu de terrain avec Thiago Alcantara, bon, qui est peut-être blessé aussi, mais à suivre sa blessure du genou également. Mais ils ont quand même étoffé leur milieu de terrain cette année. Ils ont un effectif un peu plus complet, ce qui peut permettre de faire repasser Fabinho en défense, mais ce qui serait un moindre mal. Mais vous perdez Fabinho au milieu, et surtout vous avez perdu Van Dijk, qui était un pilier de l'équipe. C'est sûr que Liverpool était pour moi peut-être l'équipe la plus complète d'Europe dans sa...
On sait que lui aussi, il avait été recruté pour très cher.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'avec les recrues qu'ils avaient, ils étaient peut-être l'équipe la plus complète d'Europe. Avec le Bayern, et au moins au même niveau que le Bayern pour moi. Mais là, effectivement, il y a un manque. Alors, je ne sais pas s'ils comptent engager quelqu'un. Mmh. Je pressens qu'ils vont rester sur la structure d'effectifs qu'ils ont à l'heure actuelle. Mais c'est un handicap pour toute l'année, c'est clair.
Etienne, affaibli, ce champion d'Angleterre
très
sortant.
Affaibli pour moi, très affaibli, en dépit donc de l'effectif pléthorique, évidemment, de Liverpool. Mais Van Dijk, c'est incroyable l'influence qu'il a. Donc ça a été dit sur le sonore, dans l'état d'esprit, dans l'impact défensif. Et c'est quasiment donc lui le meneur de jeu de sa position de défenseur central à Liverpool sur de nombreux matchs. Il a une influence sur le jeu absolument dingue que je vois chez aucun autre défenseur central. Je dis l'influence sur le jeu, l'influence technique et tactique sur le jeu. Par exemple, Ramos a beaucoup d'influence sur le jeu au niveau mental, mais il n'a pas cette influence, on va dire, technique et tactique sur le jeu du Real, en tout cas beaucoup moins. Donc c'est vraiment une perte très 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 importante pour Liverpool.
En plus, les statistiques disent que Van Dijk, là, qui a déjà fait 95 matchs avec Liverpool, quand il est là, il encaisse un but toutes les 111 minutes. En plus, il a marqué 10 buts, lui, durant ces matchs, on le sait, hein, il a un jeu de tête. Avec Joe Gomez, ils encaissent un but toutes les 100 minutes, et avec Matip, c'est un but toutes les 96 minutes, c'est-à-dire on encaisse plus. Il faut recruter Jean-Philippe, ou il faut faire
très compliqué
serrer les rangs.
Très compliqué le joker médical.
Bah oui.
Dans
parce qu'en plus, il voudrait quelqu'un de
prendre pointure.
Il faut
quelqu'un d'un niveau équivalent. Parce que quand même,
je crois pas qu'il existe en Angleterre. En plus, le joker médical en France, mais en Angleterre, je crois pas que ça existe.
En plaisantant, parce que effectivement, je pense.
Sauf pour les gardiens, ça prendra pas
cette tournure-là. De toute façon, il faudra plus d'un mois pour recruter quelqu'un. De toute façon, on rentrera quasi dans le mercato d'hiver. Donc, non, mais je pense qu'ils vont pas se diriger vers ça, parce qu'ils peuvent pas s'affoler et prendre quelqu'un auquel ils ont pas forcément pensé. Je pense qu'ils vont plutôt essayer de colmater les brèches avec l'existant. Mais forcément, ça va déséquilibrer l'équipe.
C'est plus facile aujourd'hui de recruter que ça ne l'était avant, parce que vous pouvez recruter au mercato d'hiver un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions pour un autre club, peut la disputer pour le vôtre. Donc ça ouvre quand même des perspectives un peu plus importantes. De là, ce qu'ils recrutent, moi j'en sais rien, ils m'ont pas mis dans leur confidence, mais en tout cas c'est possible aujourd'hui, si vous avez les moyens, d'aller chercher quand même un gros joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions et qui la joue pour vous.
Oui. Voilà pour ce qui est de Van Dijk, et nous verrons au cours du week-end comment jouera Liverpool en championnat, en Première Ligue, puisqu'évidemment le championnat continue. On fait appel à vos souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que ça vous rappelle, messieurs?
Vous avez quand même pas mis cette musique-là parce qu'on est tous un peu âgés autour de cette table et qu'on a tous connu ce générique-là.
Il y a du cheveu blanc, alors forcément. Tout le monde se souvient du générique de Téléfoot.
Et voilà, histoire. Le Téléfoot de notre enfance, c'était alors l'émission hebdomadaire qui nous parlait du football. C'est devenu depuis racheté, certainement avec beaucoup de en tout cas un bon coup marketing, on peut dire, par la chaîne Téléfoot, donc du groupe Mediapro. Alors, mais non. Hein. Ils disent non.
En ce moment, c'est plutôt mais non.
Hein. Voilà, exactement. À la Ligue de football professionnel, le propriétaire du groupe Mediapro a voulu s'expliquer ces derniers jours sur son attitude, celle évidemment de ne pas payer les droits dus par le contrat, les fameux 172 millions d'impayés pour l'instant. Et une demande de renégociation à la clé. Alors on va l'écouter, Jaume Roures, qui s'est voulu rassurant hier lors de sa conférence de presse en France, à Paris. Ils veulent continuer, dit-il, lui et son groupe, à relayer le championnat de France.
C'était un projet pour 4 ans, c'était pas un projet pour une saison. C'est un projet qu'on maintient, que nous on y croit. C'était un projet qui n'était pas rendible depuis la première saison, ça on le savait. C'est pour ça qu'on a financé une partie de ces projets. C'était pas non plus un projet où le premier jour de la première journée de la Ligue, on avait des millions d'abonnés. On savait que les processus ils marchent pas comme ça. On avait fait nos études de marché qui nous rassuraient sur la situation. Et on se tient à ces projets.
Alors, on se tient à ce projet, nous dit Jaume Roure, donc avec son groupe Mediapro. Vous titrez aujourd'hui avec l'équipe Écran de fumée. Est-ce que, à quoi a servi ou était-ce réellement pour rassurer cette conférence de presse pour vous, Étienne Moati, où vous étiez face à ce personnage hier?
C'est une entreprise de communication pour essayer de persuader tout le monde que voilà, en fait, ils sont victimes de l'intransigeance de la Ligue, que la situation économique a complètement changé avec le Covid et que voilà, ils sont face à un interlocuteur qui veut pas les entendre, qui veut pas les écouter. Moi, je pense qu'il prépare tranquillement sa sortie de ce contrat-là, c'est-à-dire il est rentré dans une phase de conciliation auprès du tribunal de commerce pour essayer d'avoir un arrangement avec la Ligue sur une baisse de contrat, mais c'est parfaitement impossible puisqu'on l'a dit, les clubs ont déjà pas de recettes billetterie, ils ont des sponsoring qui s'est échappé, ils ont les transferts qui ont été faits qu'à moitié par rapport à ce qui était prévu, donc ils ont aucune marge de manœuvre, ils peuvent absolument pas faire de ristourne à Mediapro qui de manière unilatérale commençait à arrêter de payer donc ce qu'il devait. Donc voilà, Jaume Roures, il est venu à Paris faire un peu de com, dire voilà, on va essayer, on y croit toujours, mais il y a vraiment plus que lui qui y croit et la Ligue elle commence déjà à se préparer à un plan B.
Et qu'est-ce que ça serait, ce plan B?
C'est un plan d'urgence, un plan de sauvetage, parce que évidemment, quand vous avez un débiteur qui ne vous paye pas, il ne vous a pas payé en octobre, il vous annonce déjà qu'il ne vous payera pas au mois de décembre, donc la troisième traite prévue dans son contrat, et voilà, vous avez des clubs qui vont être immédiatement à l'agonie, donc très très vite, il faudra trouver une solution. Ou Mediapro paye et son actionnaire chinois prend le relais, ce qui semble pour l'instant pas être le cas, ou vous êtes bien obligé de trouver d'autres solutions avec d'autres diffuseurs.
Est-ce que le football français, depuis qu'a surgi cette nouvelle, dans une interview que vous aviez faite au journal L'Équipe et qu'on a su que le groupe ne payerait pas et qu'il voulait renégocier, est-ce que tout de suite on a vu l'état d'alarme et d'alerte pour les clubs français, Philippe?
Oui. Évidemment, les droits télé représentent la moitié, en gros, si on prend la moyenne, c'est à peu près la moitié des budgets de clubs de Ligue 1. Évidemment, les clubs de Ligue 1 s'engagent sur, quand ils engagent, leur masse salariale représente quoi? Elle représente 60% à peu près de leurs dépenses. C'est-à-dire que sur 60% de leurs dépenses, déjà plus que ce que représentent les droits télé, ils ont déjà des engagements sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans éventuellement sur des contrats vers des joueurs. Donc évidemment, les clubs français ne peuvent en aucun cas se passer des droits télé. Donc forcément, état un peu de panique. De là à imaginer que ce sera quitte ou double, c'est-à-dire soit ça marche, soit tout le monde est en faillite. Non, il y aura évidemment des actions diverses. La Ligue peut refaire effectivement un appel d'offres. Dans quelle mesure, quelle somme elle récupérera, Ça, on ne sait pas, évidemment. Est-ce qu'il y aura des... Est-ce que l'État interviendra? Non pas pour acheter des droits télé, évidemment, ça serait grotesque, mais avec des aides, avec des aides diverses et variées, qui des exemptions. Après tout, la culture est choyée dans ce pays. Il y a peut-être un jour où on va se rendre compte que le sport ressemble un petit peu à la culture, quelque part, et qu'on peut leur donner les mêmes avantages. Pourquoi pas? Et ça, si ça fait 200 millions, 200-300 millions par an, et ben avec un appel d'offres refait correctement, et ben ça peut, on peut s'en sortir.
Jean-Philippe, le problème aussi peut-être de tous ces clubs, c'est qu'ils avaient pratiquement déjà dépensé ce qu'ils n'avaient pas encore touché, mais ils avaient anticipé, évidemment, durant le mercato.
Et puis il y a un autre problème, c'est que tout ça va se régler quand même en justice, et qui a l'habitude de se hâter lentement, et qui n'aura pas forcément le temps, ne répondra sans doute pas à l'urgence économique des clubs. Donc ça, c'est aussi une autre donnée.
Les emprunts actuels de la Ligue. Sauf que la Ligue ne pourra pas compenser
indéfiniment, même si elle a une délégation d'État via la Fédération française, elle ne pourra pas s'endetter en attendant un hypothétique nouveau contrat indéfiniment. Elle ne pourra pas compenser la défaillance de Mediapro comme ça. Donc effectivement, la situation est assez préoccupante. Et encore une fois, on en vient quand même à cette incurie des dirigeants de clubs français qui ont un peu lâché la proie pour l'ombre, parce qu'ils avaient des opérateurs qui les suivaient depuis longtemps, qui étaient fiables et stables, et ils se sont lancés un peu
Et stables, moi je dirais pas les choses comme ça, parce que évidemment, Mediapro est d'une parfaite mauvaise foi donc dans ce dossier et essaye de balader la Ligue de football professionnel. Mais enfin, les opérateurs fiables et stables, il y en a un qui s'appelle Canal+, qui a essayé il y a un an et demi de planter l'appel d'offres de la Ligue, donc il n'a pas absolument pas répondu de manière sérieuse à cette consultation pour essayer de faire baisser les droits de manière très importante. Donc je veux dire, c'est quand même un jeu économique où il y a que des requins et il n'y a pas simplement le méchant sino-espagnol qui s'appelle Mediapro et les gentils opérateurs qui étaient là avant et à qui on a volé les droits.
Je suis d'accord avec ça. Il y a juste une différence qui est quand même de taille, c'est que beIN ou Canal ont déjà des chaînes et ont déjà des abonnés. C'est quand même une base importante, outre le savoir-faire et les capacités à produire les matchs, parce que voilà, il y a ça aussi, hein, parce que Mediapro avait sans doute pas compté aussi le coût de la production de tous ces matchs-là.
C'est leur métier. Non, on peut pas dire ça. C'est leur métier. Ah,
ils comptaient en revendre. C'est leur métier.
Ils comptaient quand même en revendre une partie des droits.
Ça, c'est autre chose. Mais la production, par contre, on peut pas leur faire ce procès-là. C'est leur métier.
Donc, il y avait quand même oublié l'histoire. Ça, c'est jamais bon, quand même.
Un des méchants de l'histoire, parfois.
Il y a pas beaucoup de gentils dans ces histoires-là.
Non. Mais vous allez sourire quand je vais vous dire son nom. C'est Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, de la fameuse Liga. Il a répondu à une interview de nos camarades de l'agence France Presse à Madrid. Et lui a donné des conseils à la LFP aujourd'hui.
Il aime bien nous donner des conseils au football français.
Bon, vous allez me donner votre avis. Mais d'abord, il a dit, il faut s'asseoir pour renégocier de bonne foi, dit-il. Il faut dire qu'ils sont associés à Mediapro, hein, précisons-le. Il dit, cela suppose un rabais très important. Et il assure, nous en Espagne, nous l'avons renégocié. Or, après, quand on lit, il y a un contrat qui les lie pour 4 ans. Et pas que eux, il y a aussi le groupe de téléphonie d'Espagne. Donc, est-ce que c'est... bizarre cette prise de position de Javier Tebas, qui souvent déjà s'est pris la tête avec le Paris Saint-Germain. On s'en souvient évidemment au moment de l'affaire Neymar.
Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, il est en affaire avec Mediapro, qui commercialise les droits de la Liga à l'international dans le monde entier.
Mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont baissé les droits en Espagne? Non,
peut-être au niveau international, mais pas au niveau national. En tout cas, ils n'ont pas été confrontés au même dossier.
En tout cas, il est évidemment sur cette affaire-là en service commandé pour essayer de souffler dans les voiles de Mediapro contre la Ligue française.
Et puis il y a la méthode, pourquoi pas renégocier. Effectivement, la situation est nouvelle et n'avait pas été anticipée. Mais il y a quand même la méthode. Là, on a affaire à quelqu'un qui ne paye pas et qui dit
renégocions. Et à la baisse en plus. Et à la baisse. Mais alors, il y a une chose dont veut profiter Mediapro, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il y a ce contexte qui fait que pour les sociétés, il y a eu un état d'urgence qui a créé une brèche dans laquelle ils sont mises et ils veulent profiter aussi du contexte. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la crise, c'est vrai qu'il y a moins de billetterie, c'est vrai qu'il y a sans doute moins d'écrans publicitaires. Est-ce qu'ils pourraient en bénéficier ?
En tout cas, ils essayent. C'est un vrai effet d'aubaine pour Mediapro. Oui. Donc, leurs avocats leur ont conseillé de manière assez judicieuse de se glisser dans cette affaire-là. C'est-à-dire un texte réglementaire qui sert, on va dire, aux entreprises en difficulté, qui sont honnêtes et qui sont touchées depuis assez longtemps par la crise du Covid-19 et qui sont largement impactées. Mais c'est pas du tout le cas de Mediapro. Mediapro, ils ont promis un contrat à 3,2 milliards d'euros sur 4 ans. Ils ont 800 millions d'euros à sortir sur la première saison. C'est pas le Covid qui les empêche de payer. Ce qui les empêche de payer, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Ils devaient avoir forcément en trésorerie.
Ils ne veulent pas ou ils peuvent pas ?
Peut-être ils ne veulent pas et peut-être ils ne peuvent pas, ce qui est encore plus inquiétant pour la Ligue. Mais en tout cas, évidemment, c'est pas le Covid qui les impacte. Ce qui les impacte, c'est leur manque de moyens pour payer. Et donc, ils ont fait un pari qui est un pari perdu. Est-ce que vraiment ils y croyaient eux-mêmes ? En tout cas, ils devaient avoir forcément en trésorerie, on va dire, au moins la première année de contrat, puisque de façon mécaniquement, vous ne pouvez pas avoir 3,5 millions d'abonnés et être rentable tout de suite. Voilà. Donc, il fallait bien, au départ, apporter de l'argent.
Le contrat, ils ne pouvaient à aucun moment imaginer le rentabiliser dès la première année. C'est pas possible. C'est forcément, c'est une opération sur 4 ans, oui. Peut-être que
la deuxième année,
sur 4 ans, auraient peut-être atteint un seuil qui leur aurait permis d'équilibrer les choses sur toute la durée du contrat. Mais évidemment, la première année était déficitaire, donc ils devaient avoir de la trésorerie, en tout cas.
Philippe,
ça se vérifie, en tout cas, de la part de la Ligue.
Est-ce que ça peut arriver dans d'autres pays, finalement, entre guillemets, que Mediapro, ça donne des idées à d'autres télés qui retransmettent des championnats dans d'autres pays ?
C'est-à-dire que tout le monde arrête de payer.
Estime, à cause du
que
Covid.
Tout le monde estime que c'est
trop cher.
Non, mais
dénonce des contrats en cours.
Non, mais
parce qu'on sait qu'il y avait quand même une bulle spéculative.
Vous savez que dans l'histoire du foot européen, c'est déjà arrivé à Setenta en Angleterre, mais qui avait plutôt impacté le Championship que la Première Ligue. Mais il y a eu le foot écossais qui a fait faillite, etc. Oui, ça peut arriver. Une chaîne peut faire faillite, un groupe télévisé peut faire faillite et entraîner par là même un contrat caduque et entraîner les clubs en difficulté. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait une réflexion globale. Et tout le monde va réfléchir au sujet à une époque un peu charnière où on parle des GAFA, où on parle de solutions autres à l'avenir. Donc il va y avoir une réflexion un peu globale parce qu'on arrive peut-être aussi au bout, même si Mediapro est un exemple à mon avis à particulier et à part. Mais c'est peut-être aussi un petit peu le bout d'un chemin où on a poussé jusqu'au bout les chaînes et puis il y a un moment où on peut plus monter. Or les clubs sont de plus en plus gourmands. Et quand j'entendais Étienne dire tout à l'heure un obstacle pour un futur championnat fermé, une ligue fermée, c'est que les télés suivront pas. On voit bien que les télés, effectivement, il y a un moment où on peut plus aller au-delà, mais il faudra chercher d'autres sources parce que les clubs veulent toujours plus. Mmh. Les grands clubs veulent toujours plus. Donc la gourmandise du football nous mènera très très loin et je ne sais pas où et je ne sais pas avec qui surtout.
Alejandro Valente me signalait qu'aujourd'hui, la fédération espagnole a passé un accord avec un réseau social qui s'appelle Twitch. Un des nouveaux intervenants, disons, et là ils vont commencer. Retransmettre peut-être pas, mais en tout cas ils vont offrir quelque chose autour du classico. Ça va être, ça va commencer dès ce week-end. Mais et c'est vrai que c'est.
Ça fait partie des accords.
Voilà,
des accords avec les réseaux sociaux, ça existe déjà depuis un certain temps. Maintenant, ce sont des opérateurs qui sont en général très gros, mais qui ne vous donnent pas beaucoup d'argent. Oui. C'est des contrats qui, au niveau financier, sont relativement limités. Donc, ce n'est pas ça qui peut remplacer ce que sont les droits télé aujourd'hui.
Oui, même si on se souvient que Jean-Michel Aulas avait aussi suggéré de faire appel, finalement, à ces nouveaux opérateurs. Mais c'est vrai que...
Oui, mais ils ne sont pas venus quand le championnat de France a été mis en
route. Ça ne se fait pas en 10 minutes. Quoi. Ce genre de choses, ça ne se fait pas en 10 minutes.
Encore une fois, il faut une base d'abonnés ou de consommateurs qui sont là pour aussi, ont l'habitude d'être contribuer. Là pour le foot parce que ça se fait pas comme ça en 6 mois.
Merci beaucoup messieurs
ni
d'avoir
en 10 minutes
participé.
Ni en 6 mois.
Bon mais on suivra
c'est
quand
pas
même
bon signe pour la Ligue alors.
On suivra quand même le dossier ici dans Radio Foot International parce que c'est vrai que s'il y avait écran noir, alors là c'est écran de fumée, s'il y avait écran noir sur le football français, ça serait quand même compliqué pour Radio Foot International, même si on parle pas que du football hexagonal. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à l'émission. Demain, vous avez rendez-vous avec le Café des Sports. Éric Chorin sera aux commandes. À demain.